Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble.
Squat, droite, gauche, droite, sur les zones pour mon bla bla bla. On y croit, nature au parti. Life de Rosemont, Arthur au Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxer et podcast. Le temps c'est de parler, bienvenue sur le podcast.
And the new
en direct de Rosemont, mais j'admets qu'aujourd'hui, j'ai pas l'enthousiasme que j'ai dans les autres semaines. J'étais au travail ce matin quand j'ai appris le décès par suicide de Martin Achard. Martin Achard, pour moi, c'est quand même un morceau important de mon histoire avec la boxe. C'est quand j'ai commencer à écrire sur la boxe, commencer à être sur les médias sociaux. Rapidement, j'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui avait un peu... Ah, puis avant de commencer à parler de Martin, je veux juste vous dire, je sais que c'est poche quand que quelqu'un décède, puis on fait un hommage, on ramène un peu toujours tout aux anecdotes qu'on a eues avec lui, alors qu'on devrait parler de la personne. C'est comme mal fait la vie, on dirait qu'on se met à l'avant-scène quand c'est pas notre journée, tu sais. Fait que c'est sûr que je vais avoir des anecdotes avec Martin, mais je trouve ça plate de parler de moi, là, mais je sais pas, on dirait que c'est comme ça que j'ai envie d'en parler. Quand j'ai commencé à écrire sur la boxe, mais j'aime mes textes parce que je faisais plein de fautes, parce que j'étais un jeune qui a appris à écrire le français grâce au système québécois. Puis, Martin corrigeait mes fautes. Puis, la première fois, je reçois la correction. Puis, je m'attends à avoir juste quelqu'un qui a corrigé mes fautes. Puis, j'ai rien à faire, OK? Chaque faute était annexée avec un numéro. Puis, en bas de la page, il y avait les explications. Donc, si j'avais écrit... Ce jeune boxeur, S.E., il y avait un petit numéro, j'allais en bas de la page, c'était marqué pronom personnel, s'écrit toujours C.E., se référer au dictionnaire. Et une faute avec un E accent aigu, ça pouvait être écrit participe passé, toujours conjugué, le verbe avoir. T'sais. Chaque faute était expliquée comme ça, puis je me suis dit... Le pauvre Martin, j'ai fait à peu près 84 fautes. Ça a dû y prendre 3 jours. Donc, il m'avait dit, ça me dérange pas de corriger tes fautes. Tant que je vois que tu cherches à comprendre chaque faute et à te corriger dans le prochain texte. Parce que je pourrais pas toujours passer 4 heures sur tous tes textes. Puis il a dû en corriger quasiment une bonne quarantaine dans le temps que j'avais fait un... On n'avait pas de site internet, fait que des fois, je gérais Boxing Town, mais... avec Jean-Philippe, tout en écrivant chez Douzeron. Tu sais, on se promenait comme ça. Puis Martin et beaucoup Christian Toussaint, anciennement Jean-Luc Cotterêt de Douzeron, c'était les deux seuls je dirais Martin Achard, Jean-Luc Cotterêt, Kenny Chéri, rajouterais Vincent Morin. C'est des gens qui ont la même folie que moi, des gens à qui je peux leur parler de boxe n'importe quand, puis n'importe quel boxeur, kazakh ou ukrainien, ou histoire qui a pas de bon sens, eux, ils vont l'aimer, mon histoire, puis ils vont l'écouter. Tu sais, il y a pas de... Eux autres, ils m'écoutent tout le temps. Ils ont pas besoin que l'histoire soit mainstream, comme on dit. Ils trippent sur les... Ils trippent box à tout le temps, sans arrêt. Puis Martin, lui, c'était la même folie, mais il était beaucoup mais plus fou au sens positif, là, que moi sur l'histoire de la boxe au Québec. Moi, j'aime l'histoire de la boxe, j'aime les anecdotes. Lui, il connaissait tout par cœur, puis il pouvait partir sur un sujet. Tu sais, je vais vous donner l'exemple de Lou Brouillard. Lui, il décollait, là, il allait tout lire ce qu'il pouvait trouver. Je me rappelle de, je pense que c'est Jake Delaney. Lui, Martin, il me répétait toujours que Jake Delaney, c'était le meilleur boxeur de l'histoire du Québec. Il avait été deux fois champion du monde. Puis dans ses façons de gagner, il était dominant. Il avait trouvé un historien à l'université de Sherbrooke qui avait écrit un livre sur Delaney. Il avait commandé le livre. Tu sais, il collectionnait les livres. Il collectionnait les Ring Magazine du passé qui parlaient de boxeurs québécois dedans ou d'exploits. Donc, il payait la galette pour se procurer tout ça. Puis, il écrivait sur 12rondes.ca où il faisait des résumés de combats puis de boxeurs québécois. Mais c'était impeccable, là. C'était une plume digne de n'importe quel journal ou magazine de prestige, là. C'était, tu sais, il choisissait un sport. Il aurait pu écrire dans la revue F1 en France s'il avait choisi la Formule 1, ou il aurait pu écrire dans le Ring Magazine dans le temps que le Ring Magazine avait aussi une version française pour la France. Il y avait une plume digne de n'importe qui, là. T'sais, il avait pas à se cacher devant personne. C'était un des meilleurs à l'écrit. Puis quand on allait dans des galas, il était tout le temps, t'sais, il s'assoyait avec son ordinateur, il prenait des notes, il regardait tout d'un combat de boxe, mais il était très tranquille, il était très discret. C'est pas lui que t'allais entendre crier ou lever le ton. T'sais, moi, des fois, j'applaudis ou je crie. Ça, c'était pas Martin. C'était un grand calme. Puis Martin, il fouillait même, là. Ça, c'est... Il y a Francis Paquin qui fait ça. Il y a Martin Achard, puis il y a moi qui le fait très peu. Eux, ils vont sur la Banque des Archives nationales du Québec, puis ils fouillent tout. Tu sais, exemple, Martin pouvait se lever un matin, Donato Paduano, il allait voir de quelle année à quelle année il avait boxé. Il regardait la presse, puis là, il épluchait toutes les presses, une en arrière de l'autre. Fait qu'il pouvait y aller année après année. Tu sais, tu mettais ton curseur en haut, 1er janvier 81, mettons. Puis après ça, tu changeais 2, 3, 4. Puis là, il épluchait les journaux de la presse. Il extrayait les photos. Il sortait les photos de ça. Et là, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait sur BoxRec, exemple, sous Donato Paduano, et il rajoutait des photos qui appartenait à la presse, au Journal de Montréal, en donnant le crédit. Donc, Martin était en train de créer, mais de bonifier tous les profils que vous voyez sur BoxRec de photos ou d'images provenant des journaux. Lui, c'était vraiment ça que... Mais là, j'en parle comme s'il était encore vivant. C'était vraiment ça que Martin voulait laisser comme héritage d'avoir bonifié BoxRec à même ses trouvailles, puis d'avoir fait connaître aux gens aujourd'hui l'histoire de la boxe avec son... Il y a un site, le Mémorial de la boxe au Québec, allez voir ça. C'est les textes de Martin au cours des années, puis sur 12 rondes, on peut voir les archives. D'ailleurs, il y a déjà des gens qui m'ont écrit pour me dire qu'il faudrait archiver tout ce qu'il a mis sur son site, puis le conserver sur une mémoire quelque part. Au cas où qu'un jour, tu sais, le site ferme ou s'écroule, parce que là, Martin, ben, il est plus là pour le gérer. Martin, il avait commencé à écrire avec la zone de boxe. Après, il a écrit chez 12 rondes ou sur son site, le Mémorial de la boxe. Pour vous donner une idée, d'ailleurs, ici, oui, il s'est suicidé, mais il y a des circonstances, là, tu sais. Moi, je trouve qu'il y a comme un petit peu deux façons de se suicider, là. Il y a quand t'es en pleine santé puis tu vis juste une profonde dépression causée par un débalancement hormonal ou de la tristesse, que tu perds un peu le contrôle, t'embarques dans une spirale, puis là, boum, tu mets fin à tes jours. Martin, lui, il avait eu un diagnostic. Et là, ça, c'est compliqué, là. J'ai pris ça en note, je vais pas trop m'avancer. Il y avait une maladie dégénératrice qui se nomme... Ouais, je vais aller voir, là, pour les gens à maison. J'ai ça dans mes dossiers. Maladie dégénératrice qui se nomme arthrite rhumatoïde. Lui, il est en voyage en Europe, puis il s'est mis à avoir les yeux qui flashaient comme avec des points. Puis il a attendu trop longtemps pour aller consulter. D'un, il est en voyage. Quand il est revenu ici, il n'a pas mentionné qu'il avait besoin de manière urgente d'avoir un rendez-vous. J'espère que je répète les faits comme il faut, là. C'est des souvenirs de conversations qu'on a eues. Et il y a eu ce diagnostic-là de maladie dégénératrice qui, ça, tu peux pas revenir en arrière. Chaque jour, te rapproche de la fin et à chaque jour, tu perds de l'autonomie. Donc, ça faisait un an et demi qu'il était, je crois, chez sa sœur. Il m'a dit qu'il était rendu handicapé, donc je crois en chaise roulante, perte d'autonomie. Probablement qu'il a attenté à ses jours parce que ça ne lui... Souvent, les gens qui vont faire ça, ils vont attenter à leur jour le 31 décembre pour la symbolique de finir une année, mais de pas en commencer une autre. Et j'arrive à comprendre les gens qui ont plus d'autonomie, qui ont plus de qualité de vie, de pas vouloir nécessairement empirer, devenir un fardeau pour la famille, puis aussi de souffrir énormément. Donc, Martin a allégé ses souffrances. J'ai appris ça ce matin. J'ai pris ça, mais j'ai pris ça un peu dur, comme on prend toujours ça dur quand on perd quelqu'un. Martin, puis je vais vous le lire. Il a même laissé un message pour moi que sa famille m'a envoyé. C'est « Merci pour l'empathie sincère exprimée lors de ma maladie. Je vous souhaite de tout cœur la santé et une bonne continuation dans la vie. Sincèrement, Martin. » Ça vous donne juste une idée de la classe qu'avait le monsieur, tu sais, avant de commettre l'acte. Il a laissé des messages comme ça pour plusieurs gens que lui, ben, juge, je m'en allais dire important, mais juge qui ont eu un rôle à jouer dans sa vie. Donc, quand même une grande élégance, hein, de penser jusqu'à la fin à laisser un message personnalisé comme ça à beaucoup de monde. Maintenant, mais je vais vous le dire, j'ai communiqué avec les promoteurs pour être sûr qu'ils sonnent la cloche, là, le fameux compte de 10. Ça, je le sais que pour un historien comme Martin, puis quelqu'un qui était, il aimait ça, ces symboliques-là, je sais que ben ça c'est important pour lui, puis ça va lui faire plaisir d'où il est, si jamais on peut visionner les galas. Je sais pas comment ça marche après. On va le découvrir nous aussi en temps et lieu. Martin écoutait toujours le podcast que je suis en train de faire, puis il m'écrivait pour le commenter. Puis dans la dernière année, il était beaucoup plus actif. D'ailleurs, je pensais que ça allait bien parce que je l'avais vu disparaître un peu quand il avait eu le diagnostic de sa maladie. Puis je l'avais vu revenir pour être... vraiment tout feu, tout flamme en 2021. Il était partout. Il écrivait beaucoup. C'est un gars qui était ultra intéressant. Et là, ben, il n'y aura pas d'année 2022. Donc, merci pour tout, Martin. On t'oubliera pas. On va essayer de faire... passer tes travaux. J'appelle ça tes travaux parce que je sais que le nombre d'heures que tu mettais derrière chaque texte, on va continuer à s'en servir pour consulter, pour lire, pour les mémoires des boxeurs. Il y a des textes incroyables. Je pense à la famille Cerdan, même. Ils t'ont remercié pour un texte. Je pense à Donato Paduano. Je pense à Robert Cléroux, ton boxeur préféré qui était Benny Léonard. Tu t'en parlais souvent. Je pense aussi, Martin, c'était un gars qui était, il était bon pour sortir un peu des sentiers battus. Je vais vous donner un exemple quand, je pense, Pascal avait affronté Kovalev. Personne n'y avait pensé, mais lui, il avait rejoint Darnold Boone, puis il avait écrit un article là-dessus. Tu sais, Darnold Boone avait affronté les deux boxeurs, fait que c'était bien pensé de la part de Martin. Il avait souvent ces bonnes idées-là, puis d'aller dans un sentier que nous, on pensait pas. Allez consulter 12 rondes, Martin Achard, tous ces textes sont là. Le mémorial de la boxe au Québec. Puis Martin, merci pour tout. Puis on t'oubliera pas.
Puis l'idée derrière tout ça, c'est que, tu sais, moi, le modèle pour mon gars, je veux pas que ce soit un gars qui a été à Occupation Double ou l'île de l'amour. Je veux que ce soit le gars qui nous fait toujours paraître mal quand notre blonde regarde ce gars-là. Mettons, Laurent.
Oui, j'ai oublié de vous dire ça avant. On va commencer l'émission après. Là. J'ai oublié de vous dire, si vous pensez au suicide ou vous êtes inquiet pour un ou une amie, un être cher ou c'est pour vous, téléphonez 7 jours sur 7 au 1-866-APPEL, 1-866-277-3553. Ils répondent 24 heures sur 24 et je pense qu'en soirée, vous pouvez aussi essayer de les rejoindre par un message texte si vous êtes plus à l'aide. Vous êtes plus à l'aise. Restez pas seul. Puis je le sais que c'est... Ben, c'est dur de ce temps-ci, hein, avec la COVID, avec le couvre-feu, avec les nouveaux règlements. Des fois, on se terre à la maison. Oui, on est en confinement à la maison, mais on n'est pas obligé d'être isolé à la maison. Servez-vous des FaceTime, servez-vous des Zooms de ce monde, servez-vous de votre téléphone. T'sais, des fois, ça peut être la famille qui fournit une bulle familiale. Vous êtes seul à la maison? Exemple, ben moi je suis seul à la maison, mais je sais pas, mettons, vous savez que quelqu'un dans votre famille est seul, prenez le temps de l'appeler, juste ça, il va sentir qu'il est dans une bulle avec sa famille, ah, puis ça peut aider. Quelqu'un à qui vous êtes capable de tout raconter, moi je fais une tonne de blagues avec, avec Martine, mais Martine, c'est la personne à qui je raconte mes affaires. Pourquoi? Parce qu'elle me juge pas. Elle a une bonne oreille, puis même des fois, elle a des bons conseils. Puis en revanche, ben j'espère que si un jour ça va pas bien, elle m'appellera moi, tu sais, ou n'importe qui, mais tu sais, des fois, Martine, des fois, elle me le dira même pas qu'elle va pas bien, mais je la ferai, je change des idées, parce que je suis comme ça, je suis drôle, je fais des blagues, puis ça, il fait du bien, puis en échange, elle me fait du bien aussi. Puis on sait qu'un peut compter pour l'autre. Puis ça, c'est important dans le temps de la COVID. T'sais, trouvez-vous quelqu'un à qui vous pouvez raconter des choses. Si vous sentez que quelqu'un est seul dans votre famille, appelez-le. Puis c'est comme ça, je pense qu'on va s'en sortir comme société. Et voilà. Cette semaine, j'ai pas fait grand-chose. J'ai travaillé à chaque jour. Il s'est passé une couple d'affaires dans le monde de la boxe. J'avoue, est-ce que j'ai la tête à vous parler de ça? Ouais, je pense que oui. Genre, de toute façon, tu sais, Martin, c'est arrivé ce qui est arrivé, mais Martin, c'était un tripeux de boxe, puis il aurait aimé ça qu'on parle de boxe encore puis encore. S'il avait eu la santé, ça fait qu'on va le faire. Je voulais recommencer. Joe Smith a déclaré que Arthur Beterbiev voulait pas l'affronter. Ça m'a fait un peu rire cette semaine. Mais je dois admettre que j'ai trouvé ça génial, OK? Tu vas chercher ton adversaire, dans le cas de Joe Smith et Callum Johnson Jr., on jasera de la suite tantôt. Et là, une fois que tu as ton adversaire signé, une fois que tu vas probablement te revirer peut-être le prochain adversaire de Canelo, tu peux bien dire n'importe quoi. Beterbiev, je pense pas qu'il veut m'affronter. Son entraîneur, Marc Ramsey, il a vu ce que j'ai fait à Eléder Alvarez. Puis à chaque fois qu'on négocie, on dirait qu'il part dans un autre bord. Tu sais, il part d'un autre côté. Mais dans le fond, il n'a pas le choix d'aller d'un autre côté. C'était des défenses obligatoires à la IBF. Mais toi, tu peux dire n'importe quoi. Le commun des mortels, tu n'en rendras pas trop compte. Bien joué de la part de Joe Smith. Puis on reparlera tantôt de son prochain combat. Joe Smith se bat la semaine prochaine contre un adversaire de remplacement, un dénommé Steve Garrard. dans les choses à écouter absolument, si vous êtes à la maison, je vous conseille, ça a fait 20 ans cette semaine, j'en revenais pas, je suis rendu une vieille personne. Écoutez Léonard Dorin contre Raoul Balbi 1 et essayez de compter les coups de puissance. Vous allez capoter ben raide, vous allez en perdre l'usage de votre cerveau à essayer de compter. Dans les autres choses, qu'on discutera de ça à travers l'émission aussi, personne ne veut affronter Philippe, l'animal Ergovic. Luis Ortiz a refusé de l'affronter, déclaré qu'il était blessé après. Et on attend une réponse de Joseph Parker qui va probablement dire non aussi. Il est arrivé quelque chose sur la scène politique. Laurence écoute parler, le podcast politique. Je crois que c'est... Je vais ouvrir l'article avant, au lieu de vous dire des « je crois ». Mais si ma mémoire est bonne, c'est le sénateur Brazo. Mais... Ouais. C'est pas dans mon texte, finalement. Il y a quelqu'un qui s'est levé en chambre et qui a proposé que le boxeur George Dixon soit désigné... d'importance historique nationale. C'est le premier athlète noir à avoir remporté un titre mondial, peu importe le sport que vous choisissez. Et c'est un Canadien de Africville, Halifax, en Nouvelle-Écosse. Il est né le 29 juillet 70 et il mesurait 5 pieds 3 et pesait la coquette somme de 87 livres. C'était pas gros. Il a été champion des poids coques et des poids plumes. C'est lui qui a inventé le shadow boxing. Qui, ici à la maison, a pas déjà lancé quelques coups de poing devant son miroir où on simule un combat contre un adversaire imaginaire qui est celui qu'on voit dans le miroir l'autre bord. Donc, l'inventeur du shadow boxing... En tant qu'athlète noir, il a été exposé aux préjugés raciaux tout au long de sa vie et sa carrière, souligne-t-on dans un communiqué de Parc Canada annonçant la désignation de George Dixon le 21 décembre. Il est mort à New York en 1909. Une autre citation. Dixon a utilisé sa plateforme et sa popularité en tant que champion du monde pour créer des possibilités pour les boxeurs noirs et pour les amateurs de boxe noire. Et il a régulièrement versé ses gains remportés sur le ring à des causes visant à lutter contre la discrimination et à soutenir les communautés noires. Il va y avoir une plaque en son honneur, puis un centre communautaire, il y en a déjà un à Halifax. Il a été intronisé au Panthéon des sports canadiens en 1955 et au Temple de la renommée de la boxe en 1990, 81 ans après sa mort. Donc, c'était le volet politique de ton podcast préféré.
Tu es très chanceux car tu as devant toi le numéro 3 du syndicat de Poste Canada, Canada Post, section Saint-Sacrement.
Eh bien, c'est le temps des nouvelles internationales. La WBC a prolongé la période de négociation entre Tyson, Fury... je me lève à 5h du matin pour aller travailler... Puis je fais quand même votre podcast après le travail, fait que c'est pour ça que j'ai baillé avec aucune clause. La WBC a prolongé la période de négociation pour Tyson Fury contre Dillian White. Ils ont jusqu'au 18 janvier, sinon il y aura un appel d'offres. Ça met pas fin aux nouvelles internationales, par exemple. J'en ai plusieurs autres, dont une qui m'a choqué. N'ayons pas peur des mots. Je vous lance ça assez bien, quand même assez bientôt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Deontay Wilder aurait trois options devant lui. Andy Ruiz, Anthony Joshua et Alexander Usyk. Je sais pas. Et mon Dieu, quand on commence à bailler, c'est pas facile. Je sais pas qu'est-ce qu'il va choisir comme adversaire, est-ce qu'il va continuer. Moi, je veux voir Deontay Wilder continuer, c'est vraiment mon plus grand souhait. Qui va affronter Philippe Ergovic? Littéralement, personne va affronter Ergovic pour devenir aspirant de la IBF. On a Luis Ortiz qui a déclaré « Je suis blessé. » À la main. Joseph Parker a dit « Moi, je charge plus cher que l'argent qu'il va avoir dans l'enveloppe. Donc, je suis pas là. Et je vais pas y aller. » Après ça, personne veut l'affronter. Fait que Soerlund a déclaré « J'ai demandé à la IBF de le placer directement aspirant obligatoire sans qu'il fasse ce combat-là. » Je sais pas si vous vous rappelez, Arthur Beterbiev, ça a quasiment pris 6 mois avant qu'on y trouve un adversaire. Je pense pas que la IBF va abandonner après 6 jours. Zaylee Zhang, le champion de médaille de bronze, a déclaré qu'il lui était prêt à y aller pour le titre. Fait qu'on va voir si la IBF va accepter Zaylee Zhang. Toutefois, le problème, c'est que Zhang est classé 13e. Fait qu'il faut appeler tout le monde avant. Faut appeler Joshua, qui est 5e, Tony Yoka, Joseph Joyce, Agit Kabayel, Murat Gassiev, Andy Ruiz, Dempsey Mekking, et là, on irait à Zaylee Zhang. Mais au moins, on a comme une garantie que quelqu'un va dire oui avant la fin du top 15 avec Zhang. Ça me fait toujours rire, ça. Les gars sont classés, ils ont une chance pour aller champion du monde, puis « Oh non, non, moi, je veux pas me battre en championnat du monde. » Pourquoi tu fais de la boxe si tu veux pas devenir champion du monde? Ça me fâche. Eddie Hearn et choqué de voir que Anthony Joshua a changé d'adversaire pour son rematch avec Usyk. Il comprend pas la manœuvre, puis il a peur de perdre. Il a peur que Joshua perde encore et que lui perde sa vache à lait en Joshua. Là, ça, c'est la prochaine nouvelle, j'avoue, j'en comprends pas trop. Parce que Canelo Alvarez, il a demandé pour être aspirant numéro 1 au titre de Lung Ga Makabu. Puis là, Canelo, il a dit « J'irai n'importe où mon entraîneur me demande. » Et là, ça semblait réglé. Et là, on apprend que Canelo, il vient de se rendre compte que Makabu est pas super connu, puis qu'il préférait affronter Germal Charlot à 168 livres pour profiter du gros buzz autour du Cinco de Mayo le 7 mai et affronter beaucoup plus tard Lunga Makabu qui de toute façon va attendre son tour. Fait que je sais, j'aurais tout vu là. À quoi ça sert d'aller challenger Makabu si dans le fond tu voulais affronter l'autre? Puis j'imagine Canelo, faut qu'il prenne la masse, de prendre la... C'est pas si facile que ça, prendre de la masse. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire, Canelo. Tu veux-tu affronter? On le sait tous qu'on connaît pas Makabu, mais on le connaissait pas plus quand t'as fait ça il y a 5 mois. Puis Tim Bradley a eu le dernier mot en disant « C'est du niaisage, ça. Personne connaît Makabu. Charlot est pas à ton niveau. » Tout le monde veut que t'affrontes Benavidez. Affronte donc Benavidez. Fais donc ce que le monde veut. Va où le peuple veut te voir aller. Virgil Ortiz va affronter Michael Mackinson, aspirant numéro 4 à la WBO. 21 victoires, 0 défaites, 2 KO pour Mackinson le 19 mars prochain. Sur les zones de DAZN. Bon, on nous répète encore que Golovkin veut son 3e combat contre Canelo Alvarez, mais ça fait 2 ans que Golovkin s'est pas battu, puis il approche 40 ans. Je sais bien pas comment ça va finir. Tenez-vous bien, il y a des rumeurs que Jake Paul pourrait affronter le père de Tyson Fury, John Fury. Ce sera tout. Je ne commande pas la nouvelle. Le promoteur de Isaac Cruz court après Ryan Garcia. Cruz qui a fait une grosse performance contre Gervonta Davis continue à tenter d'avoir son combat. Joe Smith Jr. va affronter Steve Jeffrard. Puis j'ai hâte de voir. Là, Jeffrard, c'est pas un gros char, mais des fois, quand t'as un changement d'adversaire comme ça ou quelqu'un qui sort d'une boîte à surprise, on dirait qu'il arrive à bien paraître. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Jeffrard pourrait bien paraître. Joshua Usyk 2 en avril à Wembley Stadium, selon Eddie Hearn. Laurence Okoli va faire face à Michael Cislak le 27 février prochain sur DAZN. DAZN qui va d'ailleurs vont nous gâter dans les prochains temps. Mario Barrios s'est promis qu'il allait fucker le retour de Keith Thurman. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On continue à nous laisser miroiter Crawford de Spence. Crawford contre Spence dans un gros combat pay-per-view. Là. Ça commence à être long. Hein. On joue un peu avec nos patiences. Nous autres, on n'est pas patients tant que ça. Là. Donnez-nous le combat, donnez-nous le pas. Josh Warren contre Kiko Martinez le 26 mars prochain en Angleterre. Kiko Martinez qui est un briseur de prospect. Daniel Jacob contre John Ryder le 12 février prochain sur DAZN. L'abonnement DAZN va valoir la peine dans les prochains mois. Parker veut une revanche contre Andy Ruiz. James Munguia va affronter Dimitrius Ballard. Personne n'a compris celle-là. Pourquoi affronter Dimitrius Ballard? Ça, drôle d'idée. Ryan Garcia dit que c'est Isaac Cruz qui veut pas l'affronter. Vous voyez, je reviens avec la nouvelle de tantôt. Si Jermall Charlo court après Canelo Alvarez, Jermall Charlo va avoir une revanche contre Brian Castano le 12 ou le 19 mars prochain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fury contre Dillian White, ce serait le 26 mars prochain, ou Fury contre quelqu'un d'autre. On a l'air d'avoir gardé l'idée de peut-être faire un tune-up fight. Yogi Fury contre Derek Chisora. Les rumeurs sont partout. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Callum Johnson a testé positif à la COVID, a perdu son combat contre Joe Smith. Juan Francisco Estrada et Roman Chocolatito Gonzalez ont signé pour la trilogie. On parle du 5 mars à San Diego. Et ça fait pas mal le tour des choses à surveiller. Ben, de la chronique boxe internationale. La chronique, dans le fond, je sais pas, j'aime pas. J'aime-tu ça faire ça? Ben oui, j'haïs pas ça, la boxe internationale. C'est juste qu'on dirait que si j'avais des infos, je vous parlerais juste de boxe locale sans arrêt, mais on manque un peu d'infos. Il se passe à rien. C'est la COVID sans arrêt. Je suis en train de perdre patience. Pavel Sour, imaginez, Pavel Sour qui était venu affronter Arslanbek Makhmoudov a gagné en quelques secondes hier contre Yann Arbic avec une fiche de 2 victoires et 23 défaites en carrière. Pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai noté ça, parce que c'était Pavel Sour est venu ici. Faites son possible, donc on en parle quand il se bat. Tu sais. Imaginez 2-23, tu sais, incroyable. 2-23 chez les poids lourds. Faut que t'aimes ça, te battre, pas à peu près. Alors, cette semaine, dans les combats à surveiller au Nigeria, à l'hôtel Lagos, Holan Ryuja Duradola contre Idiyu Okosote 2-4. bon, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est un combat intéressant. La sœur de Sébastien Fundura, Gabrielle Fundura, va se battre au à Panama. Sinon, Carlos Ocampo, qui était pressenti pour affronter Michael Zuski, va affronter Omer Rodriguez. Joe Smith Jr. va affronter Steve Gaffrard pour le titre de la WBO sur ESPN. En demi-finale, Abraham Nova contre William Encarnacion. Matt Conway va affronter Avery Sparrow en Pennsylvanie. Et c'est tout. On se pitchera pas par les fenêtres après avec les combats qui s'en viennent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'est pas gâté. C'est, je vais vous le dire, là, je pense que c'est la première fois depuis le début. Je commence à en avoir ma claque de la COVID. J'ai peur parce que j'ai une source à l'interne qui me mentionne qu'on pourrait, cette semaine, on va probablement apprendre. Ce qui est arrivé, c'est que je fouillais sur les sites polonais pour voir si Marius Wack s'en venait au pays ou s'il avait fait, une annonce. Et j'ai vu, je sais pas si c'est son gérant ou quelque chose, mais j'ai vu son gérant annoncer que le combat était annulé contre Arslanbek Makhmoudov et qu'il était remis le 22 janvier, qu'il n'y aurait pas lieu le 22 janvier. Mais j'arrive pas à avoir aucune confirmation quand j'écris à tout le monde et j'ai aucune confirmation. Donc, du côté de Jim, on semble dire que c'est correct, mais ma source me dit que demain, donc lundi, la Régie des alcools, courses, jeux du Québec va annoncer sa décision finale aux promoteurs pour savoir comment ça va fonctionner le 22 et 29. L'idée qui nous avantagerait, c'est que ça ait lieu à huis clos et qu'on puisse l'écouter avec les façons qu'on connaît habituelles. Mais la crainte, c'est que ce soit simplement annulé. Donc, c'est inquiétant et je sais pas ce qui va arriver avec ça. C'est le premier podcast de l'année. La semaine passée, on a reçu Noé Cloutier et ce sera en mode conclusion. Mais avant d'aller en conclusion, je voulais vous dire, j'ai fait quelques prédictions dans ma tête, là, mais j'ai mis ça sur papier. Ce qui va arriver, je vous donne le top 5, les 5 plus choses qui vont arriver en 2022. Top 5 2022 des affaires qui vont arriver. Je vous fais ma première prédiction. David Lemieux va perdre un combat chaudement disputé contre David Benavidez. Il va y aller d'une grande performance où il va même gagner des rondes puis shaker Benavidez. Et à la fin de l'année, on va même dire que David Lemieux a la performance de l'année dans la défaite contre Benavidez et il va gagner de la valeur aux yeux des gens à l'international. Donc, toutefois en perdant, là, ça, c'est du rarement vu. Ça, c'est ma prédiction numéro 5. Prédiction numéro 4. Zuski va perdre contre Sergei Boachuk. Il va prendre sa retraite. Il va se concentrer sur sa famille. Et va devenir entraîneur comme son père. Prédiction numéro 4. Prédiction numéro 3. Marie-Ève Dicker va battre Anna Renkin. Elle va battre aussi plus tard dans l'année Cecilia Bracus pour avoir 3 des 4 ceintures chez les 154 livres. Elle va descendre à 147 le 22 décembre et elle va battre Jessica McCaskill et elle va passer le réveillon littéralement avec 7 ceinture autour de la taille. C'est ma prédiction et j'en suis certain. À peu près 94%. Aussi, Steven Butler va gagner 3 combats, va retourner dans les classements et va flirter avec le bonheur à la fin de l'année. Ça, c'est une petite production comme ça. Alexis Barrière va gagner tous ses combats. 4-0. Finir l'année 4-0. Mais ça, non, mais ça, c'est pas des prédictions vraiment intéressantes. Kim Clavel va devenir championne du monde dans un combat très chaudement disputé et va prendre une petite défense optionnelle. Kim Clavel va finir l'année championne du monde avec une défense de son titre. Ma grosse prédiction, Arthur Beterbiev va devenir champion unifié en battant Joe Smith et va battre Dimitri Bivol à la fin de l'année et Canelo va le laisser vieillir. Et ma prédiction tristesse de l'année, Oscar Rivas va perdre son titre contre Evgeny Romanov et va annoncer qu'une blessure à la main met fin à sa carrière. Ça, c'est mes prédictions pour l'année 2022. C'est triste. Donc, c'était le podcast numéro, je pense c'est 109. Pour vrai, journée difficile, journée compliquée au niveau des émotions. Quand j'ai appris ça matin, le décès de Martin Achard, je ne mentirais pas que... En plus, j'étais dans le fond d'un camion, il faisait noir, j'ai sangloté. D'habitude, quand ça va mal, le premier réflexe que j'ai, c'est Martine Vallière-Bisson. Puis là, je sors tout ce que j'ai à sortir, puis ça va. Mais là, il était tellement tôt que j'ai laissé Martine dormir, j'ai gardé ça pour moi. J'ai sangloté un peu, je vieillis aussi, je suis moins comme... Je suis moins brutal qu'avant. Avant, je pouvais comme tout prendre, puis il n'y arrivait rien. On dirait, là, je suis devenu émotif en vieillissant. Peut-être un peu plus fleur bleue, je sais pas. Moi, j'ai été élevé, ça c'est juste pour l'anecdote, j'ai été élevé qu'un homme, ça n'avait pas le droit de pleurer. Moi, à un moment donné, ma grand-mère est morte, puis j'étais triste. Puis mon père m'a dit, t'as pas le droit de pleurer. Mon grand-père est à côté, il a dit, t'as pas le droit de pleurer. Fait que là, tout le monde pleurait dans la petite salle de réception, puis j'ai jamais pleuré. J'étais comme figé parce que mon père puis mon grand-père m'avaient dit. Puis eux, c'était leur mère, puis t'sais, leur épouse, là, puis ils flanchaient pas, mais aucune émotion. Je le sais qu'à l'intérieur, là, c'était le bouleversement, mais ils laissaient rien transparaître. C'est vieux, c'est cliché, mais c'est comme si les hommes, dans ma famille, se doivent d'être forts pour tenir tout ça en place. Puis moi, j'ai pas flanché. Mais j'admets qu'en vieillissant, je suis plus émotif, puis j'ai pas le droit. J'ai pas été élevé de même. Donc, c'était le podcast numéro 109. Martin Achard, on t'oubliera pas. Merci pour tout ce que tu as fait. T'as été, les dernières années, t'as souffert. Aujourd'hui, tu ne souffres plus. Et... repose en paix, mon ami.
Ben, 85, c'est moi, Tarzan Tyler, Tarzan le bottine Tyler, qui va rire de vous autres, les Québécois, le monde de la ville de Québec, parce que mon champion, c'est Keitonga, il va vous le battre, il va le battre comme un tapis, votre équipe Martel, votre petit Québécois, votre petit gars de la ville de Québec que vous aimez tant.